Tu reviens
RMC. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Le Super Football Show.
Verratti à 11 millions, encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup moins prouvé, je pense, que Belanda. Donc on est un peu dans l'excès là. Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Je vous fais le pari qu'il sera rarement même dans les 18.
Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, c'est le moment d'accueillir nos drôles de dames. Simone Rovera avec nous. Salut Simone.
Ah bon, c'est la bonsoir.
Fred Hermel en Espagne. Salut Fred. Ah, Fred.
Mais oui, je suis là.
Ah oui, ça va?
Mais oui, vous entendez?
Oui, c'est bon.
Hola chicos.
Philippe.
H-O-L-A-C-H-I-C-O-S. Hola chicos.
Philippe Auclair est là également. Salut Philippe. Ah non, il arrive lui aussi dans un instant. Et David Lorto pour l'Allemagne. Salut David.
Allô Frédéric, salut messieurs, salut à tous.
Le temps que Philippe arrive et qu'on commence vraiment. En plus, Daniel voulait vous prendre à témoin, mes amis drôles de dames.
Ça fait peur ça.
On avait une dernière question de l'after juste avant 23h. Ça concernait Gilbert. Bon, c'était amical quand même, hein, puisqu'il n'est pas là pour se défendre, donc on peut pas non plus lui tomber dessus. Mais Gilbert va-t-il trop loin dans sa campagne anti-Coupe de France? Vous avez suivi ses tweets pendant le week-end. Vous avez peut-être écouté Tim Duga cet après-midi.
Ah oui, où il a même. T'as été magnifique, toi. On a failli pleurer tellement. Mais non, mais toi, tu viens du football amateur. On sent que tu connais ça de près.
Mais on vient tous du foot amateur, justement.
Non, moi je joue pas. Hein.
Bah, Gilbert.
Ouais, mais tous ceux qui ont joué au foot viennent du foot amateur à un moment donné.
Bon, Daniel, qu'est-ce que tu voulais dire?
Ah non, je voulais juste dire que c'est bon, moi je l'avais entendu ici avant de l'entendre chez Tim Duguay.
Bon, il le fait tous les ans quand même.
Mais ouais, mais en fait je ne comprends pas. Ça tombe bien que les drôles de dames sont là parce qu'elles sont finalement témoins de notre union.
Ah oui, de votre relation.
Depuis 11 ans maintenant, depuis 11 ans, Gilbert est ma maîtresse tous les soirs. Ça fait 11 ans qu'on fricote et c'est la première fois que je le comprends pas en fait. Mince. Donc il a décidé de se tenter une petite aventure solo comme ça pour voir autre chose. Il s'est fait, je sais pas, dans le parking, il a croisé quelqu'un, et il a voulu une petite aventure parallèle, et je peux pas lui en vouloir pour ça, tu vois.
Ah bon? C'est normal après 11 ans, tu penses?
Après 11 ans, bon, il a besoin d'une respiration.
T'es pas compliqué, toi.
Malheureusement, le problème, c'est qu'il s'est égaré, tu vois. Si ça lui avait fait plaisir de respirer, mais malheureusement, il s'égare complètement.
Ah oui.
Bah, c'est pas grave.
Moi, j'ai pas réussi à y croire. Et je n'arrive toujours pas à y croire.
Mais je crois que même lui en fait au fond.
Ouais, ça ne colle pas au personnage du tout.
Voilà, il a voulu s'évader quoi. Tu vois, c'est comme un gars qui jette son sac et puis tu vois, hop, il se met comme ça sur la jetée, regarde le paysage au loin et voilà, il sait pas quoi faire.
Mais tu crois qu'il se rend compte qu'il se rend compte qu'il a tort?
Non, mais c'est pour ça qu'il faut pas
qu'il est pas dans le vrai, non?
Pour
non,
ça,
il s'en rend pas compte encore. Mais va s'en rendre compte
en tout cas. On va arrêter là parce qu'il est pas là pour répondre non plus, hein. Et il a pu développer ses arguments là depuis 24 heures au-delà, même si on n'est pas d'accord. Moi, ça me fait rire. Donc voilà, oui, sa capacité à défendre cette posture, c'est magnifique. Mais bon, il en est convaincu. On y va.
Petit coup de folie de ma maîtresse.
Oui, c'est ça. Mais t'as l'air de bien le prendre quand même. Hein. C'est assez intéressant de voir ta réaction, d'ailleurs.
Bah, si à lui, j'excuse pas tout. Hein. À qui je vais excuser?
C'est vrai.
Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps.
Exactement.
Il faut bien que le corps exulte.
C'est exactement ça.
Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte.
Oh, magnifique. J'adore, tout le Freddy chante.
Yes, voilà. Jacques Brel.
Philippe Auclair est avec nous. Salut Philippe.
Et moi, t'aimes pas quand je chante, Jean-Louis.
Ah si, mais c'est un autre style.
Et toi, Philippe, t'es le seul vrai chanteur, mais tu chantes jamais.
Je pensais que t'allais couper en entendant Fred, Philippe.
Mais pas du tout. C'est une chanson que j'adore, comme tant.
Est-ce que tu l'as chantée mieux que lui?
Ah non, pas nécessairement.
C'est vrai qu'on t'entend jamais chanter, Philippe.
C'est vrai, Philippe Meilleur.
Bah non, lui et moi, c'est gratuit, lui, il est payé pour chanter.
Merci Fred, j'allais faire cette réponse.
Non, je pense qu'il respecte trop la musique, la chanson. Non,
mais lui, c'est un vrai chanteur, il peut, putain.
Ah oui, c'est vrai. Ah, bon, bah, Philippe, on commence.
Brel, c'est compliqué.
On commence avec toi, c'est parti.
Ah bah, c'est gentil. Scandaleux, je dis bien scandaleux. Va te faire voir, va voir ailleurs si j'y suis.
Magnifique. Donc Philippe, tu veux nous parler du départ de Coutinho, présenté
entre
ce matin d'ailleurs au Barça, et de Liverpool.
Oui, écoute, tout simplement pour dire que peut-être que on n'a peut-être pas tant de raisons que ça d'être exaspéré ou de craindre l'avenir du côté de Liverpool. Plus tu regardes de près plus ce transfert, plus tu te dis que bon, de toute façon c'était cousu de fil blanc, ça nous le savons. C'est un transfert qui était dans les tuyaux depuis un bon bout de temps. Il y avait eu également l'arrivée de Virgil van Dijk qui nous avait indiqué que les Américains avaient de l'argent à dépenser. Donc si cet argent était à dépenser, c'est qu'ils allaient l'avoir ailleurs. C'était donc par Barcelone. Non, mais c'est bien évidemment, c'est triste de voir partir un joueur de aussi beau avoir joué que Philippe Coutinho. Mais j'ai le sentiment que c'est un joueur qui dont la beauté du jeu fait qu'on exagère un petit peu l'influence sur les résultats de son équipe. Et je suis pas certain du tout que Liverpool souffre tant que cela du départ du Brésilien. Ça va souffrir au niveau esthétique. Il va nous manquer beaucoup, bien évidemment. Je suis certain qu'il fera de très belles choses avec Luis Suarez et Lionel Messi. Mais quand tu analyses un peu plus près l'apport de Philippe Coutinho à ce qu'il a apporté à Liverpool, ce que je fais d'ailleurs une chronique sur le site de SFR et de RMC, tu te rends compte qu'en fait, par exemple, lorsque tu vois quand il a été absent et la saison dernière et cette saison, tu te rends compte en fait que les performances de Liverpool n'avaient absolument pas chuté. En fait, elles avaient même été un petit peu meilleures. Enfin, il n'y avait pas de lien véritablement statistique à établir. Et d'un autre côté, si jamais ce départ permet de libérer les fonds pour équilibrer une équipe qui en a tellement besoin, notamment au niveau de la défense et du milieu de terrain et du gardien, ça peut être une bonne chose pour Liverpool. Ils ne pouvaient pas conserver un joueur qui visiblement avait le cœur ailleurs. Ils ont récupéré 160 millions d'euros, qui est quand même une somme assez conséquente, dirons-nous. Ils en ont déjà dépensé 70, hein, n'oublions pas, avec Virgil van Dijk. Vous faites les comptes, ça en laisse 90, donc largement de quoi pouvoir également se renforcer donc en milieu de terrain, et puis j'espère pour eux également avec un gardien de but. Mais c'est pas une catastrophe. C'est pas Coutinho qui s'en va de Liverpool, c'est pas comme quand Luis Suarez par exemple est parti de Liverpool, qui était tellement, alors là c'était le joueur autour de qui tout était construit, ou lorsque Gareth Bale est parti de Tottenham, où il était vraiment le joueur exceptionnel, même si au bout du compte ils avaient recruté Lamela et Eriksen, et on voit que ça a donné finalement une très belle équipe, mais je ne pense pas que ça aura le même impact sur Liverpool, et que donc c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ma chronique, c'est qu'à mon avis il y a beaucoup de gagnants dans cette affaire. Il y a le joueur qui visiblement voulait, après malgré tout 5 années, hein, n'oublions pas, passer à Liverpool, ouais, qui l'avait acheté 8,5 millions de livres, donc 10 millions d'euros. Vous vous rendez compte? Vous achetez 10 millions, vous en vendez 160, bonne affaire. Mm-hmm. Barça récupère un joueur qui permet de...
Qui entre parfaitement dans leur style.
Absolument, qui a cette patte absolument magnifique et d'un genre très esthétique.
Peut-être pas, parce que tu l'as pas dit, mais dans toutes tes explications, tu le sous-entendais, on comprenait.
Peut-être pas
finalement,
totalement
il était pas. Voilà, exactement.
Alors que va venir, comme par hasard, juste au moment où Philippe Coutinho s'en va, tu as le retour d'un joueur qui, lui, est clopien jusqu'au bout des orteils, des ongles, mmh, des orteils. C'est Adam Lallana, oui, l'anglais, qui lui est le gars qui presse très très haut, qui peut se mettre en position de numéro 10, en position de milieu axial ou désaxé, et qui a cette énergie que Coutinho n'a pas nécessairement. Mmh. Alors, c'est pas pour dire, surtout pas ne pas me comprendre de travers, c'est pas pour dire Coutinho c'est pas une perte.
Mais bien sûr, bien sûr.
Non, c'est une perte, absolument. Notamment du point de vue de la beauté du jeu pratiqué par Liverpool, les buts absolument somptueux dont il nous a régalé, mais ça n'est pas une catastrophe. Et je dirais même que ça pourrait en fait convenir à tout le monde.
Je n'ai jamais considéré que le départ d'un joueur d'un club était une catastrophe. Normalement, ça doit être pensé, géré et remplacé.
Sauf si c'était Messi ou Cristiano, ou voilà, t'en as 2-3 comme ça.
Mais il y en a même pas deux, trois.
Messi.
Je t'avais dit que Luis Suarez à Liverpool, ça avait été dur. Mais après, franchement, parce qu'il était vraiment le centre du jeu.
Mais parce que l'équipe a pas su remplacer. Mais regarde, Cristiano Ronaldo est quand même au top quand il quitte Manchester United. Est-ce que Manchester United a souffert du départ de Ronaldo? Dans la foulée, je pense qu'ils ont dû refaire finale de Ligue des Champions sans lui.
Ils font deux finales de Ligue des Champions.
Ils ont continué à être forts en Angleterre. Je pense que ça a été plus compliqué, le départ d'Alex Ferguson et tout ce qu'il représentait, que Cristiano Ronaldo, alors que c'est une star planétaire, un joueur extraordinaire.
Prenons plus récemment le Neymar au Barça aussi.
Exactement.
Pour l'instant, tout se passe bien.
Normalement, le joueur, en plus, qu'on pense irremplaçable, coûte une fortune, ce qui permet quand même de prendre de l'oseille et donc de le remplacer. Et j'en reviens à chaque fois avec, c'est toujours le même exemple que je ressors depuis 10 ans, avec ce qu'avait dit, exactement,
Agnelli sur Zidane.
Pas bien alors.
Agnelli sur Zidane.
Lippi.
Alors attends, juste avant le temps que tu retrouves, que tu remettes les mots dans l'ordre, nouveau but à Lens. Non, tu n'as pas. Lens Boulogne, Jean Baumel.
Et devinez qui a marqué?
Christiane.
L'esthéticienne.
Le triplé de Christiane dans la première période de la prolongation. Donc à la 100e minute, Christiane qui redonne l'avantage au Racing Club de Lens dans ce 32e de finale de la Coupe de France. Et Bollard forcément qui est en fusion, mais c'est pas encore terminé parce que on rappelle que Boulogne avait égalisé dans les toutes dernières secondes du temps réglementaire par Koné justement. Et donc 3 buts à 2 désormais pour les Lensois. Et c'est un Espagnol, Fred, qui a marqué, hein. Voilà, Christiane, triplé.
But d'un Espagnol pour Lens, là, c'est tous les mots-clés, Fred Hermel, clignote, là.
Ça y est, il faut que je change les draps, là. Mais...
Merci, Jimbo. Donc, Daniel, la phrase de Lippi.
Ah ben non, mais c'est quand Zidane s'en va, les mecs qui étaient en panique, ils disaient, c'est bon, vous inquiétez pas, Zidane est parti, c'est vrai, mais on va prendre Nedved, Thuram et Buffon.
Ah voilà. Oui, c'est vrai. Et il avait pas tort.
Oui, c'était pas franchement planté sur le coup, hein. On peut pas dire. On peut pas dire.
Bon, donc voilà.
Après,
sur Coutinho,
Nedved était un style totalement différent, oui, différent de Zidane, après, mais il a marqué profondément l'histoire de la Juve avec son style à lui. Bien et sûr. Puis en plus, t'ajoutes Thuram et Buffon.
Il est Ballon d'Or.
Il a été Ballon d'Or.
Ouais,
bien sûr. En 2003.
Sur l'actu en Angleterre, Philippe, faut qu'on parle d'Arsenal quand même.
C'est impossible de ne pas en parler. Ouais. Je t'avouerai que je vais me donner 30 secondes parce que je suis encore tellement furax de ce que j'ai vu.
Élimination en cup.
Le nombre de fautes tu l'as été cette année d'Arsenal.
Oui, non, mais tu sais, j'essaie de pas en parler d'Arsenal parce que d'une part, en championnat, c'est une équipe qui ne fait plus partie des prétendants au titre.
Du gratin.
On en parle beaucoup moins. Pourquoi est-ce qu'on parlerait plus d'Arsenal qu'on parle de Burnley? En fait, il faut plus parler de Burnley qui est beaucoup plus intéressant qu'Arsenal en ce moment. Et puis, ce que j'ai vu, ce que l'on a vu, cette démission à Nottingham Forest face à une équipe de gamins qui est 14e de D2.
Ça n'a pas été de la faute de l'arbitre cette fois pour Wenger? Il
a
pas eu un...
Ah non, de ce côté-là, Wenger a été impeccable. Il n'a pas du tout chouiné. Il n'a pas dit que c'était de la faute de l'arbitre. Non, il a tout simplement... Il a fait exploser ses joueurs. Cela dit, les joueurs, c'est lui qui les a mis sur la pelouse. C'est lui qui les a préparés pour ce match. Et une chose que je constate, c'est que j'ai vu la différence entre l'équipe amené par Wenger à Nottingham et celle qu'on fait jouer par exemple Pochettino et Mourinho et Guardiola et Klopp, qui ont tous pris cette FA Cup au sérieux, y compris ceux qui vont jouer la demi-finale de la Coupe de la Ligue, comme c'est le cas d'Arsenal. Et même Kanté a mis une équipe A prime, pas B. Arsenal a joué ça complètement par-dessus la jambe, avec un banc qui était complètement inexistant. Ils ont été punis comme ils le méritaient, et c'était une catastrophe. C'est tout simplement abandonner un trophée que tu as gagné trois fois depuis 2014.
Ouais, ils sont tenants du titre en plus.
Oui, ils sont tenants du titre. C'est sans doute la pire défense d'un titre de FA Cup dans l'histoire de la compétition. Je dis bien dans l'histoire de la compétition, pas seulement parce que tu es battu, tu peux très bien être battu dans des conditions normales, simplement parce que tu arrives avec une équipe de joueurs qui sont trop vieux, pas motivés ou pas suffisamment mûrs pour jouer dans ce type de contexte. Et le résultat, tu te fais sortir et tu te fais massacrer absolument partout. C'est pour ça que Arsène était absolument furax après la rencontre, et je le comprends.
Et ça continue, les protestations, les gens qui veulent que Wenger s'en va, ou limite, on n'en parle même plus de ça.
On n'en parle plus vraiment.
Mais comment ça se fait qu'on n'en parle plus?
Écoute, je crois que les gens simplement sont fatigués.
Mais il y a toujours les gens viennent au stade encore, c'est toujours plein.
Mais c'est pas toujours archi plein, mais les billets sont toujours vendus. Je te dis pas qu'ils trouvent, parce que tu sais comment ça se passe à Arsenal, il y a beaucoup d'abonnements qui sont partagés entre plusieurs personnes. Mm-hmm. Mais le stade n'est pas nécessairement plein, mais les billets sont toujours vendus. C'est un club qui inspire une énorme fidélité. C'est un grand club, ça reste un grand club, ça restera toujours un grand club. C'est pas ça le problème. Mais il y a un désamour, et je pense que ce désamour aujourd'hui, il est vécu d'une drôle de façon. Si tu veux, quand tu vois par exemple le match contre Tottenham, la victoire en première ligue, qui était un super match, le match contre Chelsea, qui était un régal, qui nous a tous fait rêver, même la défaite contre Manchester United, le problème c'est que c'est ces performances qui te font te souvenir de ce que peut être l'Arsenal d'Arsène Wenger, et Dieu sait que ça peut être beau à voir, y compris en 2017-2018. Ces performances sont de plus en plus rares, et tu peux pas te permettre de manquer de respect à ce point face à une compétition que tu as gagnée trois fois depuis 2014, la compétition que tu as une vraie chances de gagner. Alors, on va me dire, c'est parce qu'il veut se concentrer sur la Ligue Europa, qui est synonyme de Ligue des Champions, ou parce que les demi-finales de la Coupe de la Ligue qu'il n'a jamais remporté avec Arsenal, etc., etc. Oui, 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 tout ça, c'est valable. Mais quand tu vois la qualité de la performance sur le terrain, je suis désolé, il y avait quand même 7 internationaux qui étaient là face aux gamins de Nottingham Forest. Ouais. Catastrophique. Catastrophique.
Mais ils sont capables quand même, même s'il y a toutes ces irrégularités, toutes ces sorties de route, de coups d'éclat.
Mais complètement.
Donc en Coupe d'Europe, en Europa League, bon, tu peux quand même, tu dois quand même les mettre.
Il va falloir mettre une grosse équipe, ce qui n'a pas été le cas pendant la phase 2 de groupe. Et on peut imaginer en effet que Wenger change d'avis et commence à jouer l'Europa League à fond, comme Mourinho par exemple l'avait fait l'année dernière avec Manchester United. Où tu as, je crois que le joueur qui avait joué plus de matchs pour Manchester United, c'était Paul Pogba.
Ouais.
Il avait absolument, il avait rien lâché. On va voir si ça va être le cas. Quand je vois le retard au classement en Première Ligue. Quand je vois que t'as une double confrontation contre Chelsea en demi-finale de la League Cup, qui est quand même compliqué, même si Chelsea est un club qui réussit plutôt bien à Arsenal ces derniers temps, je me dis qu'en effet, il va peut-être falloir en faire une priorité.
Très bien. Dans l'actu, tu voulais aussi nous parler de Stoke.
Oui, et de Mark Hughes, mon grand copain. Vous savez combien j'apprécie cet entraîneur. Et il est parti. C'est un cas rarissime. C'est celui d'un entraîneur qui reste plus longtemps avec lequel on est trop patient. Ça fait un an environ qu'on sait que les choses ne tournent plus rond du tout à Stoke. Il a eu la chance d'être avec Monsieur Coates, son propriétaire qui est quelqu'un de très fidèle et qui l'a laissé en place. Mais au bout du compte, c'est une catastrophe absolue. Le club est aujourd'hui relégable, premier relégable. Le jeu fourni, il n'y en a pas. Le recrutement est catastrophique. Je dis bien catastrophique. Et c'est en fait la confirmation de ce que je pense, moi, quant à moi, depuis un bon bout de temps, c'est-à-dire que Mark Hughes et ses entraîneurs, de ces grenouilles qui se veulent plus grosses que le bœuf, qui n'arrêtent pas de bomber le torse, qui est toujours là à accuser les arbitres quand les choses vont mal, c'est-à-dire qu'il les a accusés pratiquement à tous les matchs de la saison. Bon débarras. On le reverra sans le moindre doute parce que bon, c'est comme partout ailleurs dans le monde du football. C'est un manège enchanté. Hein. Quand un entraîneur est viré, il suffit qu'il
Je me souviens pas l'avoir vu réussir quelque part.
Il avait fait marcher Blackburn.
C'était un super joueur. Blackburn. Il a eu une bonne période à un moment.
Blackburn, il avait été pas mal.
Il y a en Angleterre des joueurs, mais c'est dans tous les pays, hein, les coachs comme ça qui tournent. C'est comme Alan Pardew et tout. C'est des mecs, ça tourne comme ça. Et puis, il y a pas grand-chose qui
Bon, voilà pour l'actu. Je précise.
T'as des entraîneurs comme ça en Espagne, là, des mecs qui tournent, mais qui en fait, au final, ils réussissent jamais.
Ouais.
Qui?
Un mec comme Paco Remes, par exemple. Qui a descendu
Paco Remes, tu l'aimes pas depuis qu'il a il s'est attaqué à Zidane.
Qui a descendu Grenade.
Non, rappelle pas, il avait posé la question, Fred, parce qu'il y avait toutes les histoires des diplômes à l'époque. Zidane l'avait pas entraîné et tout. C'était le leader de la fronde anti-Zidane.
Un mec qui trouve toujours une place, un poste.
Non, mais c'est ça. Mais il y a des mecs comme ça qui sont très forts. Tu sais, qui ont de bons copains dans les plumes importantes de la presse espagnole, qui les invitent à bouffer, qui voilà. Et les mecs, à un moment, il y avait même une campagne pour qu'il devienne sélectionneur, pour qu'il remplace lui Del Bosque.
En Italie, Simone est
un comme ça, une sorte de Hughes ou Pardew, un mec qui trouve toujours un poste mais qui fait rien.
Pas en Serie A en ce moment. Je suis Reddy Giampaolo jusqu'à cette saison, que je trouvais pas comment il arrivait à se trouver toujours en club, mais
en France, il y en a de moins en moins.
Et en France?
En France, ça tournait. Ça tournait tout le temps.
Plus maintenant.
Non, mais un entraîneur français qui trouve toujours des postes alors que ça donne jamais rien.
Disait Antonetti. Toute la clique là.
Girard, Antonetti.
Qui ont eu une bonne période à un moment et puis ils mangent dessus pendant des années.
Un petit nom, Lorto en Allemagne aussi. Ça en fait le tour.
Ah, Lorto il hiberne.
Lorto il est pas là.
En Allemagne il hiberne en ce moment.
C'est logique.
T'as pas là.
Bon, Philippe, je précise d'ailleurs et on respecte ton choix éditorial avec plaisir. Tu voulais pas trop qu'on parle de la passe d'armes contre Mourinho en même temps. On est à la réponse.
Quand les gens se ridiculisent quand ils veulent faire les clous.
C'est la réponse de la réponse de la réponse. Voilà.
C'est bon. Ils ont complètement dépassé les bornes. L'un comme l'autre.
On s'intéressera au prochain.
Celui qui a commencé, c'est sans doute Mourinho qui a commencé, mais j'en ai absolument rien à cirer. Ils se sont tous les deux ridiculisés dans cette affaire, en multipliant les insultes. Je t'avouerai que je suis pas surpris dans un cas et plutôt déçu dans l'autre. Je pense que vous aurez compris de qui je veux parler.
Oui. En Italie, ça a fait la une de la Gazzetta dello Sport quand même. Et aujourd'hui, pour vous dire, il y avait une studio sur Sky Sport pour une demi-heure. ils ont raconté un peu les dessus de cette histoire entre les deux, les relations, etc. Donc, nous, en Italie, on a beaucoup aimé cet échange. On l'a décortiqué au plus bas niveau, mais vraiment au plus bas niveau. Et l'homme des terrains de Sky...
La seule issue, c'est que maintenant, vraiment, ils se retrouvent et se mettent sur la ligne.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Ah là, c'est pour que vraiment ce soit bien comme histoire.
J'ai une fin.
C'est vu comme c'est minable, il faut vraiment qu'ils se mettent sur la ligne comme des chiffonniers.
C'est en février, 25 février, quelque chose comme ça.
Ouais. Alors ça, par contre, oui, ça, on en parlera parce qu'en effet, ça vaudra le coup.
Ah oui, là,
parce que si ce jour-là, alors là,
ça pas.
C'est vraiment
des clous. Là, au moins, pour le coup, on descend vraiment au plus bas, quoi.
Ouais, c'est vrai. Bon, voilà pour leur passe d'armes, là, à tous les deux, Conte et Mourinho. Dans un instant, l'Espagne, l'avis de Fred sur le Real. Est-ce que ça va être le Real qui est encore au titre? Je suis pas sûr.
Non, c'est pas
quand même.
C'est un peu énigme.
Allez, à tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo, Pierre Ducrot et nos drôles de dames. David Lorto pour l'Allemagne, Simone Rovera pour l'Italie. D'ailleurs, on fera un gros plan dans un quart d'heure sur... on aime bien faire ça aussi avec les drôles de dames dans l'after. Sur l'Atalanta, sur les équipes dont on parle assez peu. Donc, ce sera la tranchée de Simone. Philippe Auclair est là également. On a parlé de l'Angleterre. Place à l'Espagne tout de suite avec Fred Hermel.
Fred Hermel, demandez-lui l'annulation, ça l'a pas toujours gêné.
Ah, les belles images de Daniel. Donc Fred, alors
aussi, faut parler d'une équipe dont on parle peu.
Le Real, exactement.
Le Real.
Donc le Real fait 2-2 contre le Celta Vigo, mais tu nous l'annonçais dès hier, ce sera ton avis tranché du soir. Et tu es inquiet, ça y est, pour le Real.
Ouais, moi je suis inquiet. Et je suis inquiet pour une raison très simple, c'est que on savait très bien que le Real avait perdu la Liga après la défaite face au Barça lors du Classico, je vous rappelle 3-0 à Bernabéu pour les Catalans. Mais là, ce que j'ai vu hier soir, c'est que Zidane était un peu affecté. Pourtant, c'est un battant, c'est un lutteur. Il doit être beaucoup mieux aujourd'hui. Mais hier soir, j'ai vu affecté après ce match nul. Après, le match était bien. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le match entre les deux équipes. Le Celta Vigo, ça joue bien au foot.
C'est pas vrai, je l'ai vu dans la moitié d'un œil parce qu'il y avait rien de PSG, mais j'ai vu un peu. Ouais.
Ah ouais, c'est du bon match. Hein, c'est du football. Donc voilà, c'est pas ils n'ont pas perdu contre comme ils avaient perdu contre Girona, par exemple. Non, là, c'est quand même du très sérieux. Mais quand j'entends Zidane après, qui lui renonce totalement à la Liga, là, et on a l'impression que le message que va faire passer à ses joueurs, c'est on tient le coup en Liga, déjà, pour finir dans les quatre premiers pour aller en Ligue des Champions, déjà, et puis surtout parce qu'il faut qu'il y ait une vraie dynamique le week-end, pour qu'après, en Ligue des Champions, en coupe le mardi, le mercredi, eh ben, on soit dans cette dynamique, parce que ça, moi, j'y crois pas, du truc, on se concentre sur une compétition, on lâche l'autre. Non, ça, des grandes équipes ont besoin d'être compétitives tout le temps, sinon, ça déraille, quoi. On peut pas maintenir le niveau, sinon, dans ce cas-là. Et puis, il y a une petite phrase de Marcelo, qui, moi, m'a fait un peu peur pour le Real Madrid. Marcelo a dit clairement, on fait tout ce qu'on peut, mais on n'y arrive pas. Et Marcelo, c'est un type qui est là depuis 11 ans. D'ailleurs, hier, on fêtait le 11e anniversaire de son début sous le maillot blanc du Real Madrid. C'est le vice-capitaine. Et on a l'impression que, voilà, c'est l'an dernier, tout leur réussissait. D'ailleurs, ils ont gagné 5 titres sur 6 possibles.
Ouais, mais ça veut dire quoi, au fond, ton inquiétude? Ça veut dire qu'ils terminent la saison, évidemment, sans être champion, 3e ou 4e, et ils se font sortir en Ligue des Champions?
Après, ça, je sais pas si on se fait...
Oui, ce qui est pour le Real, une sale saison, ça, c'est vrai.
Ouais, c'est que là, on sent que c'est la fin d'une aventure avec certains joueurs.
Ouais, mais est-ce que finalement, quelque part, à un moment, c'est ce groupe-là, ça fait longtemps qu'il est ensemble, c'est presque logique, au final.
C'est logique.
C'est assez logique.
Est-ce que... Il y a beaucoup qui étaient déjà avec Mourinho. Modric, c'est Mourinho qui fait bien.
Ton inquiétude, tu la tournes pas au drame, je veux dire. C'est pas, catastrophe.
Non,
c'est normal. Le Real va pas gagner tous les ans, même s'ils le font souvent, tu vois.
Non, mais sauf que là, je me dis que c'est vraiment la fin. En plus, mon petit doigt me dit qu'il y aura une grosse révolution dans le vestiaire au mois de juin.
Et que il y a des joueurs à changer. Il y a des mecs qui sont là depuis très longtemps. Il faut mettre du sang frais.
Ouais. L'erreur,
je sais pas si elle sera petite ou grosse, il faudra en juger à ce moment-là et à la fin de la saison, parce que pour l'instant, on ne sait pas encore ce que sera la saison du Real. C'est si ça se passe, comme tu le dis, c'est-à-dire Ligue des Champions sortie 8e ou quart et 3e en championnat, le fait que Zidane ait beaucoup insisté pour garder les mêmes hommes sans vouloir injecter de sang frais, ça, ce sera analysé comme une erreur à ce moment-là. Mais après, il change, il continue avec de nouvelles personnes et il rebondit, puis il n'y a pas de problème pour lui, quoi.
Non, moi, parce que moi, j'ai vu des équipes du Real qui s'écroulaient. Rappelez-vous, Jean Moten était l'un des responsables de ça. En 2004, le Real de Queiroz était extraordinaire jusqu'au mois de mars. Et après, ils perdent tout. perdent Ligue des Champions, Ligue 1, ils étaient devant dans tout, ils perdent tout. Rappelez-vous après Ancelotti, regardez en 2014, le Real fait ce qui était juste à ce moment-là la meilleure année de son histoire avec 4 titres. Et à partir du mois de janvier, une défaite à Valence, janvier 2015, et l'équipe commence à s'écrouler, elle finit très très mal la saison.
Donc toi là, si on en a, tu
là, je suis pas optimiste. Toi, sur tu ce les que vois, j'ai vu hier. Après,
tu les vois
l'instant.
Faire ce qui est une sale saison, 3 ouais. ou 4 et Ligue des Champions éliminée avant ouais. Les
là, sur ce que j'ai vu hier, parce que la sensation qui se dégage de cette équipe, c'est que ben il y a une sorte de fatigue psychologique, physique, et je m'étais dit là, bon. Ils vont se refaire la cerise après le, tu vois, avec le Barça, ils avaient fait un bon match contre Séville. Contre le Barça, ça va aller, ils vont faire un bon match, ils vont se relancer. Ben non, contre le Barça, ça s'est mal passé. Et puis là, premier match de l'année, il s'écroule. Et c'est le discours de certains joueurs qui, moi, me met un petit peu de puce à l'oreille en disant, la puce à l'oreille en disant, bah, c'est un cycle qui est en train de se terminer avec certains joueurs.
Ils prennent un peu la réalité en pleine gueule aussi. Ils s'aperçoivent que c'est plus possible. Juste, voilà, c'est juste ça aussi. En championnat, en tout cas.
Ouais, ça aussi, ouais, je pense qu'ils y ont cru, mais
tu peux faire semblant d'y croire, là, c'est plus possible.
Pierre, le réveil, une prise de conscience des joueurs, des cadres, parce que c'est la faillite des cadres, qui explique le niveau du Real aujourd'hui. Est-ce que ça peut changer, je sais pas.
Mais tu sais, je sais qu'ils gagnent souvent, là, mais ils peuvent faire une saison sans gagner. C'est quoi, c'est en 2015 où ils ont rien gagné?
C'était pas il y a
20 ans, c'était pas la télé.
Non, c'est ce que Fred vient de dire.
Ouais,
mais
c'est bon, ils peuvent aussi.
Ça paraît compliqué de revenir tout simplement, quoi.
Enfin, ah, mais là, pour le titre, ils reviendront jamais.
Même pour la deuxième place,
c'est tous en la Ligue des Champions aussi. Ils doivent faire quelque chose cette année.
Comme dit Fred,
le championnat pour le Real, faire 2 ou 3, qu'est-ce qu'ils ont à foutre?
Alors, je veux bien que ces équipes-là peuvent parfois sur un match aller-retour faire quelque chose, mais c'est compliqué de faire quelque chose juste sur la Ligue des Champions, tu vois. Il faut retrouver avant ça une certaine dynamique.
Ouais, toi Pierre qui a joué, tu sais très bien que on ne choisit pas. Certains joueurs peuvent jouer des matchs, mais tu dis pas allez cette compétition, on la laisse tomber.
Bien sûr que non, parce que
tu étais dans une dynamique, t'es dans un cercle vertueux ou t'es dans un cercle vicieux, donc.
Mais bien sûr.
On n'allait pas m'ôter de l'idée que c'est le dernier mondial pour pas mal de joueurs.
Donc ils se préservent un peu et ils décalent leur préparation.
Je pense que c'est pas conscient, mais que
ils veulent pas
ils viennent de gagner deux Ligues des Champions, ils se disent bon c'est mon dernier mondial. Tu vois ce que je veux dire? Ils viennent de gagner la Liga, ils viennent de gagner deux Ligues des Champions, ils viennent de gagner 8 titres sur 10 possibles en 2 ans. Après celui-là, il va jouer un autre mondial? Non. Tu crois que Modric il va jouer un autre mondial? Non. Tu crois que Marcelo va jouer un autre mondial après celui-là? Non. Tu crois que Ramos il va jouer un autre mondial après ça? Non. Bon, ça peut Kroos
inconsciemment passer au-dessus du reste.
Kroos, ça peut être son dernier mondial aussi. Il a quel âge? Il a 28, Toni Kroos.
J'ai un doute là, mais
il y a plusieurs joueurs qui vont jouer leur dernier mondial. Donc,
28, t'as raison.
Ouais, 28, donc ça veut dire 32. Ça, vu tous les bons joueurs qu'il y a en Allemagne, donc je pense qu'inconsciemment il y en a peut-être certains qui sont pas à 100%. Quoi.
Alors Fred,
peut-être que ça pourra le faire en Ligue des Champions, mais en Liga, on sait que c'est fini. Quoi.
Tu voulais qu'on parle aussi du retour de Diego Costa qui a fait qui a marqué avec l'Atlético.
Oh le pauvre.
Ça c'est génial. Ouais,
il a marqué. Bah,
c'est-à-dire
et après,
Philippe, je voulais te remercier officiellement au nom de la Liga de nous avoir rendu Diego Costa intact. Voilà, ouais, pareil. C'est le même qu'on a laissé en 2014. Voilà, c'est-à-dire c'est la même tête de. Voilà, c'est le même joueur extraordinaire. Il va faire un bien à l'Atlético. D'ailleurs, il a déjà marqué 2 buts en 2 matchs. Il apporte un esprit de conquête à l'Atlético. Il lâche rien.
C'est vraiment l'attaquant profil Atlético.
De toute façon, je vais même vous raconter une petite anecdote. C'est que quand Gamero est contacté par Simeone, donc c'était il y a un an et demi, il lui dit mais bon, tu viendras, mais si jamais j'arrive pas à faire revenir Diego Costa. Voilà, donc il pensait, ça fait longtemps, hein, c'est-à-dire ça fait un an et demi qu'il attendait Simeone le retour de Diego Costa. Donc moi je trouve que c'est génial pour la Liga, c'est génial pour l'Atlético déjà.
Il y a des profils de joueurs qui collent à des clubs
Et puis il y a des entraîneurs aussi.
Bien sûr.
Donc là il est parfait à l'Atlético et je pense que l'Atlético qui joue en Europa League, donc c'est quand même beaucoup moins exigeant que la Ligue des Champions, va être le seul vrai rival du Barça, en tout cas d'essayer de faire douter le Barça jusqu'à la fin dans cette Liga. Donc moi je suis très content de revoir Diego Costa parce que on peut aimer ou pas aimer, mais on peut pas être indifférent à ce genre de joueurs. Ils sont bien dans une Liga, quoi. Ils animent les Ligas, ils animent les championnats. On dit voilà, ce week-end il a mis un coup de coude, il a marqué un but, il a pris son deuxième jaune en célébrant le but.
Ouais, c'est dommage,
dans la tribune.
voilà, il a tout fait quoi. C'est l'ange.
C'est le genre de joueur que tu adores avoir alors avec toi quand tu joues dans l'équipe que tu supportes et que tu détestes quand il est en face quoi.
Exactement.
C'est ce genre de joueur là.
Oui, c'est les joueurs qu'on aime bien. Les gars sur un terrain, ceux que le progressisme va le tuer avec leurs vidéos et autres bêtises. Qui vont enlever tout caractère au football.
Après, il faut accepter.
La vidéo, tu peux mettre
les amateurs. Les amateurs d'eau de Javel, taisez-vous.
Daniel, tu peux avec ta vidéo, tu peux aussi mettre un joueur qui va célébrer son but avec des supporters à 10 mètres.
Mais tombez pas dans sa pauvre provocation là.
Mais moi j'ai trouvé ça tellement triste.
Il faut qu'il y ait des gardes sur le terrain. La scène était tellement belle. Il faut qu'il y ait du caractère. Les vendeurs d'eau de Javel.
T'inquiète pas, il y aura toujours des gardes, des joueurs de caractère.
Mais toi, qui suis mon mec pour la vidéo non plus. T'es avec moi et puis tu parles contre
oui,
moi.
Non, mais c'est sûr.
Si t'es avec moi, t'es avec moi.
À ce sujet, il y a eu aujourd'hui un sondage. Mais si Lorto est avec nous, tu vas peut-être nous en parler, David. Lorto.
Il est là. C'est virtuel. Laissez-le tranquille.
Il est là.
Il semble avoir eu un sondage auprès des joueurs de la Bundesliga sur la VAR.
Et ils disent quoi, les joueurs?
Eh ben, 47% contre, 42% pour.
C'est équilibré. Ouais, c'est ça. C'est aux alentours de 50. Il y a même des sondages où ça dépasse 50, messieurs.
Et donc, après l'avait vendu et après un tout petit peu d'expérience, déjà, les mecs en veulent plus, c'est dire si c'était fantastique. Oh là là.
Vous savez ce qu'a dit le président de la Ligue 1. Je suis pas bon, mais le reste, ils ont voté quoi.
Vous savez ce qu'a dit le président de la Ligue 1, le président ne se prononce pas.
Il y en a qui arrivent à ne pas se prononcer.
C'est le mec, on lui pose la question, comme ça.
Vous savez ce qu'a dit le président de la Fédération espagnole, qui est en intérêt, puisque Villar a été expulsé, en parlant du VAR, il a dit, on va voir ailleurs comment ça se passe. En gros, on attend que ça se plante ailleurs pour nous. Ça sert à rien qu'on achète maintenant, puisque ils vont se planter ailleurs, et nous, comme ça, on ne sera pas obligé de l'acheter.
Et ce soir,
les Italiens ont plongé dedans, parce que de toute façon, en matière de football, ils ne font que des erreurs depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, c'était une de plus.
Le
football italien ne fait que des erreurs depuis 10 ans, on le sait.
T'as vu la VAR,
Jardim l'a dit, je pense qu'elle ne va pas résoudre tous les problèmes, au moins les 75%
des erreurs. Oui, bah, la preuve. La preuve, tu vois, les footeurs en Allemagne n'en veulent plus. Bientôt, mais
donc là, on est passé quand même de.
Moi, ce que je disais avec Fiogo,
c'est très partagé.
En aussi peu de temps. Alors que tout le monde la voulait, qu'on était allé à des unanimités pour la vouloir.
On a aussi des excuses. Messieurs, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Juste avant. Oui, tu lèves la main, Simone. Bravo, tu es un bon élève. Mais juste avant, on va à Lens. Lens Boulogne, c'est fini, Jean Baumel.
Ça fait 1000
ans.
T'as levé la main, mais.
Allez, Divo, c'est terminé avec la victoire du Racing Club de Lens après prolongation. Donc 3 buts à 2, triplé de Christian l'Espagnol, l'attaquant sans ailleurs, alors que Boulogne avait ouvert le score avec aussi un doublé pour Koné, donc l'attaquant de l'USBCO. Donc pas de surprise, et Lens qui retrouvera en 16e de finale, ce sera le 23 ou le 24 janvier prochain, le club de Saint-Brieuc.
Merci Thibaut.
Bonne soirée à tous.
Bonne soirée. Bon, donc Simonet.
Merci.
Saint-Brieuc, capitale de la crêpe.
Ah oui,
c'est la ville de crêpes.
Très bien.
Déjà, je voulais dire que l'Allemagne, c'est le pays où il y a eu les plus grands scandales de l'arbitrage vidéo, avec les responsables qui ont été virés parce que faisait les choses favorables à son équipe. Donc,
j'ai entendu que c'était pas vrai, les
joueurs ne sont pas très très d'accord.
En aussi peu de temps.
Je crois que David voulait rajouter un mot parce que t'as parlé d'Allemagne. Vas-y, David.
Non, c'est simplement pas forcément très rassurant. Ce que je vais vous dire, c'est que et puis ça va en choquer certains par ailleurs, mais peu importe, j'assume. Même s'il y a des auditeurs peut-être germanophones qui nous écoutent, mais il y a quand même une histoire sur les 15-20 dernières années en Allemagne avec l'arbitre. Avec des défaillances, avec des sorties de route, avec des scandales, que ça m'étonne même pas. C'est-à-dire que, heureusement que vous êtes là aussi avec un regard extérieur pour avoir une vision un peu choquée de tout cela, parce qu'en Allemagne, on n'en est même plus. Même les tabloïdes ne le mettent plus en ligne.
Ce que tu dis, c'est dans tous les pays. En Italie, ils en ont eu aussi des scandales. Enfin, partout, visiblement, il y a des scandales. Donc, faut se calmer avec ça.
On peut parler d'un match où il n'y a pas eu besoin de VAR et qui était le plus beau match qu'on a sûrement vu en Europe ce week-end. Ah bah ouais, je sais pas si vous avez vu ce match.
Ah non, moi pas du tout.
Moi j'ai vu, c'est exceptionnel. Si t'aimes les matchs à intensité où ça se rentre dedans dans tous les sens et tout, là,
bien sûr que j'aime ça. Je suis pas un vendeur de Javel, moi.
Mais non, mais là t'aurais adoré. Mais simplement, je voudrais simplement pour résumer ce qu'est l'esprit du football dans une certaine partie de l'Espagne, notamment à Séville. Moi, c'est le plus beau derby d'Espagne. Ça, on le sait. Parce que c'est le plus chaud, parce que c'est le plus excessif, parce que les Andalous, ce sont des excessifs, voilà. Et bon, on va pas revenir sur le match. C'était une victoire 5-3 du Betis sur la pelouse de Séville, avec le début de Montella, le pauvre. Mais et, franchement, Simonet, comment Montella il a accepté de prendre l'équipe 4 jours avant un derby, quoi? Enfin, c'était vraiment le pauvre, il démarre.
Il était arrivé au chômage.
L'entraîneur de Séville.
Il avait besoin de travailler.
C'est ça ou rien.
Il voulait oublier Milan. Bon, et puis Fred.
Après l'expérience de Milan, je pense que rien.
Tu veux nous parler de Coutinho un jour quand même?
Oui, juste après. Mais simplement, pour résumer ce qu'est ce derby et l'importance que c'est pour le Betis. Vous vous souvenez de Joaquim Sanchez?
Oui. Oui, celui qui jouait avec les lacets du short dehors, que ça m'énervait.
Exactement.
Esthétiquement horrible.
Joaquim est le capitaine du Séville, du Betis. C'est son club. Et à la fin du match, il est interviewé par un journaliste en lui disant, alors maintenant, quoi, bien se reposer pour le prochain match. Il fait, quoi se reposer? Quoi se reposer? Il dit, les joueurs qui iront dormir avant 5h du matin auront une amende du club.
Très bien, excellent. Bon alors, Coutinho, ça change beaucoup de choses pour Dembélé?
Oui. Bah, moi, je pense oui, parce que ce qu'on a vu ce week-end, c'est-à-dire que retour de Dembélé, il y a Messi et Suarez disponibles, donc on dit on va revenir au 4-3-3 du début de saison, où il y avait Dembélé et c'est en 4-3-3. Bah non, parce que à partir du moment où l'entraîneur Valverde a trouvé un nouveau système qui fonctionne extrêmement bien en 4-4-2, il n'a pas décidé de changer. Quelques heures avant le match, l'entraîneur adjoint avait déclaré que Dembélé, non, c'est pas vraiment un ailier, c'est pas vraiment un mec. On va plutôt le mettre sur un côté au milieu. Bon, en gros, ça y est, devant, il n'y a pas de place. Devant, ça sera Messi et Suarez, bien entendu. Et que c'est au milieu de terrain qu'il va falloir se trouver une place. Donc, au milieu de terrain, vous avez Busquets, vous avez Iniesta, vous avez Rakitic, vous avez Dembélé. Et maintenant, vous avez Coutinho. Donc, il va falloir qu'il se batte beaucoup, Dembélé, parce que le système, c'est le 4-4-2. Et c'est au milieu de terrain que va se faire le combat pour une place de titulaire.
Ok. Bah écoute, on verra. Hein. Après, son jeu va peut-être aussi évoluer à Dembélé. Il faut une période d'adaptation quand t'es au Barça, surtout quand t'as pas le style.
Droit, hein. Dans un 4-4-2, il a joué milieu droit. Bon, ouais. Il a essayé de tenter 2-3 petites choses, mais moi je le trouve encore un petit peu.
Mais dans un 4-4-2, milieu droit d'Mbélé, ça me paraît bizarre.
Tu vois, pour le coup, il a joué ça ce week-end.
Pour le coup, sans que ça remette en rien les qualités de ce mec, mais quand on disait tout à l'heure, il y a des gars qui sont faits pour des clubs et pour certains styles. Autant Dembélé, toi aussi, il fait échange et c'est lui qui va à Liverpool dans un jeu à la Klopp. Je l'imagine
avec
complètement.
Espaces, tu veux dire, ouais.
Dans un jeu du Barça, beaucoup moins, mais bon.
Écoute, il est quand même jeune, Barça, il peut s'adapter, progresser. Ouais, il a quand même une technique.
Il s'adapte et tout.
C'est plus un système là qui est pas pour lui.
C'est plus un système qui est.
Ouais, mais il peut s'adapter.
C'est-à-dire que moi, ce week-end, bien sûr.
Ouais, après c'est pas le travail.
Vous regardez pas Twitter quand je dis Coutinho, bah c'est pas une bonne nouvelle pour Dembélé, ça va être dur. Tout le monde va sauter dessus, mais ouais, mais aujourd'hui, il y a un système qui marche. Le problème, c'est que les absents ont toujours tort. Il y avait un 4-3-3 en début de saison parce qu'il y a Dembélé. Sauf qu'entre temps, il a dû s'adapter. Ouais. Et il a découvert un système.
L'équipe, elle marche détonnaire.
Toi, Pierre, ceci, ça change tout tactiquement.
Dans un 4-3-3 et dans un 4-4-2, oui, quand même. C'est pas le même boulot à faire.
Mais tu penses pas qu'il peut faire justement le boulot?
Il peut s'adapter. Mais il va falloir du temps aussi. Est-ce qu'on va lui en laisser du temps?
Je pense qu'il a plus de qualité pour jouer à 4-3-3.
Ceci dit, Fred, dans un 4-4-2, Coutinho, c'est peut-être pas fait spécialement pour lui non plus. Hein.
Ouais, mais sauf que Coutinho, il a 28 ans, il est prêt. Bon, il est un peu blessé là. Mais...
Ouais, mais tu le mets où? Tu le mets sur un côté aussi, Coutinho, dans le 4-4-2? Mieux sur un côté?
Ouais, bah oui, bah, parce que il est évident.
Ouais, je suis pas persuadé que ce soit là où il soit dans le système.
Non,
dans le système.
Non, il y a Paulinho aussi au milieu de terrain. Hein. Il y a Paulinho aussi. Donc, ouais, ça en fait du monde. Hein.
Bon, ça va être intéressant à voir, en tout cas, comment Valverde articule tout ça. On en reste là sur l'Espagne, à venir l'Allemagne et l'Italie. Donc, on vous parle de l'Atalanta et de son entraîneur avec Simone Rovera dans quelques secondes. Restez avec nous dans l'after jusqu'à minuit sur RMC.
RMC, le super football show. L'After Foot, Jean-Louis Tour.
Pierre Moucroux, Daniel Riolo, les drôles de dames. Évidemment, comme tous les lundis, entre 23h et minuit, Fred Hermel, Philippe Auclair, David Lorto à venir, même si ça ne joue pas en Allemagne. David a un avis tranché à nous faire partager dans quelques minutes, mais place tout de suite à l'Italie avec Simone Rovera.
S'il y avait encore Leonardo, hier soir, il savait déjà qu'est-ce qui est sorti dans la Gazzetta. Il appelait l'agent et te dit, vous les joueurs, les agents, tout le monde ferme sa gueule jusqu'à la fin de la saison.
Et bien sûr. Simone, coup de projecteur. Là, donc, pour le coup, on parle souvent de la Juve, de Dybala, de Naples, dans tes avis tranchés. Là, place à l'Atalanta, qui a fait une grosse perf en gagnant à la Roma.
Qui a fait deux grosses perfs cette semaine, en gagnant face à la Roma ce dimanche en championnat. Et là, on s'est qualifié pour la demi-finale de la Coupe d'Italie avec une victoire à Naples pendant la semaine. Et à mon avis, c'est les moments, parce que sinon ça passe. Après la Ligue des Champions, on n'arrive plus à parler de certaines choses, comme de l'importance de Gianpiero Gasperini pour l'Atalanta. Et je veux aussi dire, oui, l'entraîneur, et aussi pour le foot italien. C'est pour ça que j'espère, et je parle avec ça dans mon avis tranché, de le voir prochainement, la prochaine saison, pourquoi pas, sur un banc important en Serie A ou en Italie. Et quand je dis ou en Italie, parce qu'il y a un banc très important en Italie qui est libre, celui de la sélection, bien sûr, parce que Gasperi est en train de faire quelque chose d'extraordinaire avec une équipe qui n'avait pas énormément de moyens, qui aujourd'hui en a beaucoup parce que ses joueurs, les joueurs qu'il a fait, qu'il a révélés, ont été vendus, et même si cette équipe a perdu des joueurs importants, reste au plus haut niveau, parce qu'il a poursuivi des rêves, c'est-à-dire les faits de faire jouer à l'Atalanta pour la première fois à l'Europe depuis 26 ans, de la jouer au fond, de faire vivre cette passion des supporters de l'Atalanta et dire, bon, on a mérité ensemble d'être en Europe, et donc on va chercher d'être au mieux en Europe. Il y a plein de clubs qui oublient l'Europa League et cherchent de se qualifier pour notre compétition, que ce soit l'Europa League ou la Ligue des Champions, et la joue pas au fond. L'Atalanta arrive première dans un groupe avec Everton, oui, qui c'est pas peut-être les plus grands Everton, mais c'est quand même une grande équipe qui a fait un énorme mercato, devant Lyon, élimine Naples en Coupe d'Italie et revient à la 6e place à l'égalité avec la Sampdoria après un début de saison un peu compliqué, mais parce qu'il faisait beaucoup tourner pour l'Europa League, et donc il a parfois mis devant l'Europe au championnat, et c'est une chose que je trouve très très belle pour une équipe, pour un club comme l'Atalanta. Et c'est pas la première fois qu'il fait des exploits comme ça. Gasperini, peut-être on le connaît pas trop en France. Gasperini en 2009, saison 2008-2009 avec le Genoa, qu'il avait fait déjà remonter en Serie A de la Serie B en saison 2006-2007. Il fait retrouver l'Europe au Genoa après 17 ans. Quand tu es un entraîneur que tu fais retrouver l'Europe au Genoa après 17 ans et à l'Atalanta après 26 ans, ça veut dire que tu as quelque chose de spécial. Tu arrives à trouver, à tirer les mieux de tes joueurs. Il y a des joueurs qui ont fait des parcours incroyables, que si était inconnu, il est au Milan aujourd'hui. Gagliardini est inconnu, il est à l'Inter. Conti, il est allé à Milan. Sur Cristante, qui était un peu un joueur perdu pour le foot italien, aujourd'hui il y a tous les plus grands clubs italiens qui sont sur lui, comme la Roma, la Juve. Donc il sait valoriser les jeunes, et c'est que son club est réussi à vendre et aussi des joueurs, à se donner une image européenne. Et les seuls problèmes de Gasperini, c'est qu'il n'est pas habitué peut-être au très haut niveau. Et on sait ça parce qu'il a raté sa seule expérience dans un grand club, qui c'était l'Inter. C'était l'Inter 2011-2012, donc deux années encore après la folie de Mourinho et la Ligue des Champions.
Est-ce qu'il pouvait vraiment réussir à ce moment-là?
Moi je
trouve dommage que cet entraîneur n'ait pas été essayé dans un... Moi je pense qu'il peut être dans un grand club.
Moi je suis sûr que la raison pour laquelle ça n'a pas marché à l'Inter, c'est parce qu'il est arrivé, il a dit on va jouer à 3. Et certains joueurs ne voulaient pas du tout jouer à 3 parce que c'était trop fatigant.
Puis il y avait encore quelques dinosaures du titre.
C'est quelqu'un qui était en train de devenir un dinosaure, qui pour jouer à 3 fallait beaucoup plus d'efforts, il ne voulait pas faire certains efforts. Mais c'est un entraîneur, pour vous dire, qui est un garçon que je connais bien comme Thiago Motta dit, c'est l'entraîneur plus préparé, meilleur que j'ai connu au niveau technique, tactique et humaine. C'est quelqu'un...
Moi je pense qu'il y a des clubs en France qui ont des moyens, qui devraient se pencher sur un mec comme ça.
Et moi, j'ai dit, j'espère le voir dans un grand club d'Italie.
Genre Lyon.
Pourquoi pas en Europe, ce serait très beau pour lui. Et pour vous dire, il a lancé des jeunes, mais plein de jeunes. Paulo Dybala, lui, dans sa saison Cachemardès Cap Alarme, c'est lui qui l'a fait débuter.
Ouais.
Titulaire pour la première fois en Serie A, et son premier doublé l'a fait la deuxième fois qu'il était titulaire, avec Gasperini sur les bancs. Mais encore, je ne sais pas, les Perotti, les Sharawi, les Milito, les Motta, il y a plein de joueurs qu'il a révélés au grand public.
Écoute, et on retient Gasperini, on espère le voir dans un grand club.
Il est plus jeune, il a la soixantaine.
Il va faire 50 ans ces mois-ci.
Combien ?
50. Putain, je voyais 60.
Ah, tu vis tout le monde.
Ah ouais, là,
mais non, mais avec les cheveux blancs...
Les cheveux blancs, ça veut rien dire.
Ah,
c'est
excuse-moi,
bon,
je me suis laissé abuser par ce détail. Pardon.
Alors, pardon. Simonnet, parlons quand même du reste de
l'actu. Il a que 50. Ah, bah ouais, alors faut vraiment
non,
que.
60
ah,
oui. cette année alors.
Ah.
Je te dis, je me suis trompé. Il va faire 60 cette année.
Ah, oui, il a 59 ans.
Il est du 58. Je me suis trompé.
Ah, il est de 58.
58.
Enchaînons. Voilà. Simonnet, Blaise Matuidi, donc victime de chants racistes. Faut quand même en dire un mot.
C'est encore la mauvaise histoire de Cagliari, c'est une
magnifique. C'est que Cagliari, c'est isolé, non, mais, où il y a un problème
Cagliari,
de fond.
Faut parler de Cagliari, parce que la saison dernière, c'était Muntari qui voulait quitter les terrains, et on a dit, il y a 3-4 idiots qui ont fait des chants. Il y a quelques saisons avant, c'était Eto'o qui voulait quitter les terrains pour être été insulté à Cagliari. Et quand le club aujourd'hui communique en disant, oui, mais c'est 4-3 idiots, nous, on n'est pas comme ça, c'est 4 idiots chaque fois, chaque année.
C'est un peu facile comme réaction.
C'est un trop simple. Bon, j'espère que cette fois, Cagliari va faire seulement pas des belles mots, parce qu'il fait un tweet en français très beau, très correct, très poli. Mais il faut faire quelque chose en plus. C'est-à-dire, si c'est 4 idiots, il faut que ces 4 idiots, qui soient 4 ou 40, ne rentrent plus jamais dans ton stade. Et il faut arrêter avec ça. Après,
c'était pas facile.
Mais non, mais le
Jonathan Zibina, qui était dans Team Duga aujourd'hui, qui a joué 13 ans en Italie, dit c'est un problème de culture dans les stades italiens.
Sûr.
C'est
mais
un problème
là-bas.
Vraiment
profond. Bien là-bas. Sûr, mais en fait, il y a une hypocrisie qui est terrible. Ça, ok, dire, ça arrive dans plein de pays, on l'a vu, on l'a entendu et tout. En Italie, pourquoi c'est récurrent ? Le problème de ces quelques abrutis partout dans les stades qui le font. Mais le problème, c'est qu'évidemment, quand tu n'as jamais voulu régler les problèmes en tribune.
Ah.
Le football en Italie, moi je vous le dis très sincèrement, je suis très inquiet et pessimiste pour le football de ce pays. C'est pas le fait que la compétition, Simone, je t'assure, à force de pas vouloir voir la vérité en face en Italie, je t'assure que ça va aller de mal en pis au niveau du foot de ce pays. C'est pas parce que la compétition se porte bien dans le sens où les matchs sont intéressants, là je suis d'accord avec toi, que ça améliore les résultats forcément en Coupe d'Europe d'autres clubs à part la Juve, qui est une société qui marche très très bien et pour qui ça va très bien, mais l'équipe nationale reste sur deux Coupes du Monde pourries plus une ratée. J'ai vu le très bon reportage que t'as fait, là, qu'on a fait pour Transversal, que t'es allé faire. Moi, quand j'entends même des Paolo Rossi, Bergomi, et des mecs quand même avec une expérience énorme qui ont été champions du monde, analyser la situation du foot et sortir presque autant de banalités sur l'état du foot et pas comprendre.
Alors, comment sur les supporters.
Voilà. Bon. Ben, les supporters en Italie, on n'a jamais voulu rien faire. Ils ont pris le pouvoir dans tous les clubs. On a laissé les dirigeants, on a laissé les pouvoirs aux ultras. On a vidé les stades. Mmh. Aujourd'hui, les stades sont toujours à moitié vides. Il y a plus de stades en Italie. Tu vois, même quand on dit, je suis un peu en train de mélanger tous les problèmes, hein, mais les structures, les stades, même le San Paolo avec la grande piste et tout, même si c'est plein, c'est pas tout le temps plein. Mmh. Bon voilà, le stade olympique à Rome, on en parle même pas. La situation des deux clubs de Milan, qui sont des locomotives essentielles à la bonne santé de ce football-là, sont en mauvais état. Voilà. Et donc, à côté de ça, on laisse les supporters prendre le pouvoir, qui sont gangrénés absolument par l'extrême droite. L'extrême droite, c'est pas un privilège de l'Italie. On est dans un pays où l'extrême droite était au deuxième tour. Il y en a partout. Des chants racistes, ça s'est déjà vu en Espagne aussi. Ça ne se voit plus en Angleterre depuis très longtemps.
Mais
parce qu'ils ont fait le ménage il y a très, 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 très longtemps. Mais ça se voyait dans les années 80 et les années 70, ce genre de choses-là. Voilà. On ne s'attaque pas au problème. Et quand, en plus, l'autre idiot qui était à la présence de la Fédé, qui pouvait se permettre de raconter toutes les conneries du monde,
et avoir des propos racistes lui aussi, ça...
c'est ce que je dis,
c'est
monde,
ça
voilà.
Le problème.
Donc que tu ne règles pas les problèmes, et ben après tu peux continuer à dire c'est vrai, c'est bien ce qu'ils ont fait, le club, l'excuse et tout, le mot il est sympa, mais si à côté tu vas pas régler et que le week-end prochain les mêmes crétins tu les laisses rentrer, tu régleras pas le problème et tu le règles dans aucun stade.
Fred. C'est une phrase. Et Daniel a 100% raison. En Espagne, c'est arrivé aussi.
Mais bien sûr que
c'est
arrivé.
Qui s'appelle un type que beaucoup de gens détestent, qui s'appelle Javier Tebas, qui a dit c'est fini. Et depuis que c'est fini, eh ben je peux vous dire que les clubs ils expulsent les mecs. Et c'est pas simplement les insultes racistes. Hein. Ils avaient identifié 13 mecs, exactement 13 mecs qui lors d'un classico avaient passé tout le match au Bernabéu à traiter Messi d'anormal, enfin de subnormal, enfin de mongol, ou je sais pas ce que là. Et ben les mecs ont été identifiés sur demande de Tebas, ils ont été identifiés et ils sont exclus à vie du Bernabéu. Et quand on veut,
en Italie, avec les moyens qu'il y a aujourd'hui, on peut. Jamais non. En arrière, ça va être très compliqué. Les ultras ont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de pouvoir.
Simonet, un dernier
et la
mot,
grande
si
majorité
veux.
Sont gangrénés par l'extrême droite.
Et derrière, il y a l'Allemagne. Donc vas-y, Simonet.
C'est vrai que moi, entre les premières chansons que j'ai prises quand j'allais au stade avec mon père et j'étais petit, etc., c'était bien sûr des chansons sur qui insultaient l'adversaire géographiquement, on peut dire. Si tu es de Naples, t'as ça. Si tu es de la Fiorentina, t'as ça. C'était de Milan, c'était de... Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que depuis
les chants de stade ont toujours été un peu portés là-dessus. Il faut bien le dire. Parce que quand les Parisiens faisaient paysan, c'est une sorte de racisme social. Et les Lyonnais avec les Stéphanois ont fait ça dans des proportions. Ça existait, mais en Italie c'est plus profond et il faut vraiment tant qu'ils feront pas le ménage.
L'Allemagne, David Lorto, on y va.
Je rappelle que Lorto porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA.
David, tu vas nous parler de la sélection.
Ah bon?
Oui, absolument. Parce que vous savez que le championnat va reprendre, ce sera vendredi, avec un alléchant match entre le Bayer Leverkusen, qui revient pas trop mal cette saison, et le Bayern Munich. Donc il faut patienter encore. Et pourtant, cette année, ça reprend quand même très tôt, je trouve. La Bundesliga, ça, on pourra à l'occasion reparler de ces trêves qui se raccourcissent comme peau de chagrin en Allemagne, qui se réduisent. Ce que je voulais vous dire ce soir, et on retiendra ça peut-être pour la Coupe du Monde à la fin de la saison, c'est que, à mon sens, le problème de l'avant-centre, le problème de l'attaquant de pointe pour Joachim Löw en sélection est terminé.
Ah.
Pourquoi ?
Oui.
Je vous avais parlé il y a quelque temps, dans un avis tranché, de la montée en puissance de Sandro Wagner, ce grand attaquant costaud, puissant, qui très fort de la tête, qui avait été formé au Bayern et qui retrouvait des couleurs avec ses clubs récents et notamment avec Hoffenheim. Et bien Sandro Wagner, nos auditeurs ont suivi l'actu, est venu maintenant au Bayern. Il avait exprimé très fortement l'envie d'y venir et on se disait, ah, est-ce que c'est vraiment un bon choix pour lui s'il veut disputer la Coupe du Monde, parce qu'il va être évidemment la doublure, l'ombre peut-être même de Lewandowski. Or, Lewandowski est légèrement blessé en ce moment et Sandro Wagner en a profité. Il y a eu un match amical, le Bayern avait quelques jours de préparation là, ces dernières heures au Qatar, et il y a eu un match amical contre Al-Ahly qui est anecdotique certes, il y a eu 6 buts à 1 je crois, peu importe, mais Sandro Wagner a marqué le premier but de son équipe. Bon, c'est pas mal et il semble avoir gardé la confiance qu'il avait acquise ces derniers temps à Hoffenheim. Donc ça c'est pas mal du tout aussi pour Joachim Löw, parce que figurez-vous qu'en même temps, exactement au même moment, un certain Mario Gomez, qui a 2 ans de plus, 32 ans contre 30, lui aussi recommence à trouver des couleurs avec son nouveau club. Il a été transféré à Stuttgart, Mario Gomez. Et donc, ça fait pour le sélectionneur, qui peut se frotter les mains, la possibilité de se dire « Ah, bah, ces deux-là, ils vont se tirer la bourre jusqu'à la fin de saison. Et si je veux jouer avec un pur numéro 9, un pur finisseur, un pur buteur, un homme de surface, j'aurai l'avantage d'avoir le choix. » J'aurais pas seulement Mario Gomez qui se morfondait à Wolfsburg, mais maintenant il est sous la menace entre guillemets sportive, l'émulation de Sandro Wagner. Ça c'est un aspect, et puis lié à ça, il a le choix maintenant, l'embarras du choix, le sélectionneur, parce qu'il a aussi, en plus de ces deux-là, Timo Werner, dont on dit du bien depuis un moment, du RB Leipzig, qui lui peut ajouter de la vitesse et de la profondeur. Il a un certain Lars Stindl, qui est le 9,5 idéal, qui joue entre les lignes, entre les attaquants et les milieux de terrain, qui joue à Mönchengladbach. Et puis, il a aussi, et ça c'est plus hypothétique, mais ça reste une réalité possible, Mario Götze, vous vous souvenez, le fameux Messi allemand, qui est capable de dribbler dans une cabine téléphonique. Bon, et puis on peut en citer d'autres. Donc voilà, moi, c'est ça que je voulais vous faire sentir ce soir. Il me semble que le problème du numéro 9, qui était quand même un problème essentiel en sélection, on en a énormément parlé dans les médias en Allemagne, après la fin de carrière de Miroslav Klose, ce problème est en train de se dissiper, parce qu'on retrouve un semblant de concurrence, on a des profils divers, et le sélectionneur va vraiment avoir le choix pour constituer son groupe en fin de saison pour la Coupe du Monde. Donc ça fait un problème de moins, à mon sens, encore un problème de moins pour l'Allemagne.
Et oui, Daniel, les Allemands seront là à la Coupe du Monde.
Ah bon, c'est étonnant.
Ouais. Je savais même pas qu'ils en avaient un problème. Moi.
Bah oui. On les met en... Non, on fait pas de classement dans les favoris. On dit il y en a 3 et puis on verra.
Ils sont, pour les bookmakers anglais, ils sont co-favoris juste avec le Brésil à égalité pratiquement, devant la France. Brésil,
et l'Espagne, qu'est-ce qu'ils font, ils tricotent, ils font quoi?
Brésil, Allemagne, France, Espagne. Je te donne les cotes.
La France avant l'Espagne. La France est avant l'Espagne.
Mm-hmm.
Mais au nom de quoi?
Il y a plein d'endroits où la France est bien placée.
Mais pas d'Angleterre.
Mais avant l'Espagne.
En tout cas, on sera d'accord sur le quatuor, je pense.
Mais je comprends pas au nom de quoi.
Je pense que nous, on met même pas la France dans le quatuor.
Moi, je mets dans le chapeau outsider, mais pour moi, c'est Allemagne, Brésil, Espagne favori, chapeau à 3. Comment il peut en être autrement?
Bah, c'est les bookmakers. Ça veut dire qu'il y a de l'argent à se faire, Daniel.
Ce sont les paris qui ont été déposés par les parieurs.
Là, voilà, Daniel, tu mets
les derniers matchs de l'Espagne, les derniers France-Espagne. Enfin, ils sont fous, quoi, les bookmakers. Voilà.
Là, Daniel, si t'étais joueur, tu mettrais une tonne sur l'Espagne.
Que l'anglais, un petit peu condescendant par rapport aux Espagnols, comme ils le sont avec les Italiens.
Non, moi, je pense qu'ils se concentrent aussi sur certains éléments.
Bienveillants avec les Français.
Certains éléments de l'équipe de France offensive.
Vous savez, ici, on parle de la perfida Albion.
Ah oui.
Vraiment, il y a le mot perfida Albion aussi. Non, en France aussi. Les cœurs, ils ont leur choix, je sais pas.
Très bien.
Tu as dit avec le Real tout à l'heure, Daniel, qu'on pouvait pas prendre une boule de cristal et voir voir en fonction de ce qui se passait dans une saison ou ce qui allait se passer après.
Oui.
On tient pas compte des derniers matchs.
Iniesta qui est titulaire en équipe d'Espagne, dans quel état il va arriver en fin de saison? Busquets, si les Barcelonais jouent tout, parce que là ils sont pas mal, elle est pas mal cette équipe, ils vont jusqu'au bout en tout, comment ils vont arriver physiquement, et si les Madrilènes sont désespérés,
stop avec la Coupe du Monde, non,
il y en a un qui s'ennuie, t'es juillet, je comprends bien,
me demandais pourquoi ils s'énervaient, mais c'est, j'ai compris. Juste en 20 secondes, David, Aubameyang, il en est où?
Oui, bah alors Aubameyang, je voudrais lui rendre un tout petit peu hommage ce soir rapidement, parce qu'il avait été durement critiqué par ses propres supporters tardivement, mais d'abord aussi par les médias et puis par les observateurs et surtout ses dirigeants, parce qu'il avait fait des incartades, parce qu'il était allé ceci à Milan, parce qu'il avait fait des choses un peu en dehors des règles. Mais là, il y a une petite histoire qui le concerne. Il a eu le droit officiellement de la part de son club de revenir à l'entraînement. Vous savez que le Borussia Dortmund, enfin vous savez pas, mais je vous le dis, était en stage de reprise dans le sud de l'Espagne, à Marbella.
Ah, c'est étonnant, et au sud de l'Espagne, des clubs allemands.
Il va falloir conclure, mon petit David.
Et Aubameyang s'est autorisé, avec l'accord de son club, 3 jours de retard pour revenir, parce qu'il recevait un prix, et puis il a aussi un privilège supplémentaire, c'est que sa famille l'accompagne dans l'hôtel du club, alors que c'est par ailleurs strictement interdit. Donc il a quand même des privilèges qui lui sont aussi accordés par ses dirigeants. Il faut lui rendre cet hommage.
Merci David, merci à toutes les drôles de dames. Daniel, merci également. Merci à vous. Demain, l'after arrive après la Coupe de la Ligue, effectivement. Nice-Monaco à 21h, donc l'after dans la foulée. Quart de finale de Coupe de la Ligue toute la semaine sur RMC. Ciao.
RMC, le super football show, l'After Foot.